Chapitre 17. En route vers l'ouest. Quand la serveuse revint avec les bonnets, Elaine, en sous-vêtements de soie blanche, se reposait sur un des lits, un morceau de tissu humide en travers des yeux. Sur le lit d'à côté, Ninevé faisait semblant de repriser l'ourlet de la robe de soie verte de sa maîtresse. En réalité, elle s'affairait surtout à se piquer les doigts. Même si elle ne l'aurait reconnue pour rien au monde, avec une aiguille et du fil, elle ne valait pas tripette. Bien entendu, elle portait sa robe. Les servantes ne pouvaient pas se permettre certaines fantaisies, mais ses cheveux défaits indiquaient qu'elle n'avait pas l'intention de sortir dans un avenir proche. Soucieuse de ne pas réveiller sa maîtresse, elle remercia la fille dans un soupir, lui glissa dans la main un sou d'argent de pourboire et lui rappela que la dame ne voulait être dérangée sous aucun prétexte. Dès que la porte se fut refermée sur la fille, Elaine se leva d'un bond et entreprit de sortir leur baluchon de sous les lits. Oubliant la robe de soie, Ninevé passa les bras dans son dos pour déboutonner la sienne. En quelques instants, les deux femmes furent fin prêtes. Ninevé en robe de laine verte, Elaine en bleu, chacune ayant attaché ses baluchons dans son dos. Portant son sac d'herbe, Ninevé se chargeait également de l'argent et sa compagne du ballot contenant les coffres et la boîte. Grâce au bonnet, dont les larges bords proéminents dissimulaient parfaitement leurs traits, elles auraient probablement pu passer devant Galad sans qu'il les reconnaisse. Surtout elle, avec ses cheveux défaits, alors qu'il l'avait toujours vue avec une tresse. En revanche, maîtresse Djaren risquait d'intercepter deux inconnus descendant de l'étage avec de gros baluchons. En dévalant l'escalier de service, Ninevé eut un bref moment de sympathie pour Tom et Julien, qui s'étaient échinés à y porter les coffres. Mais elle se concentra surtout sur la cour et sur les écuries au toit de tuiles. À l'ombre du coche, un chien jaune piquait un roupillon, mais tous les palefreniers étaient à l'intérieur. La jeune femme capta des mouvements derrière la porte ouverte, mais personne n'eut l'idée saugrenue de sortir d'un havre d'ombre et de fraîcheur. Traversant la cour, les deux femmes gagnèrent l'allée qui courait entre les écuries et une haute clôture de pierre. Une charrette pleine de fumier entourée de mouches bourdonnantes y passait, occupant presque tout l'espace. Même si elle ne pouvait pas la voir, Ninevé devina que l'aura du Saïdar enveloppait Elaine. Pour sa part, elle espérait que le chien n'aboierait pas et que personne ne sortirait des cuisines ou des écuries. Canaliser le pouvoir n'était sûrement pas une façon discrète de s'éclipser, et il ne fallait surtout pas laisser une piste que Galad puisse suivre. La porte en bois brut, au fond de l'allée, n'avait qu'une simple clenche en guise de fermeture. Au-delà, la ruelle où s'alignaient des maisons au toit de chaume, en grande majorité en tout cas, se révéla déserte, à l'exception d'une poignée de gamins occupés à jouer, chacun tentant de toucher les autres avec un sac de haricots. Le seul adulte en vue s'affairait à verser des graines dans un pigeonnier, sa tête et ses épaules dépassant de la trappe qui donnait accès au toit depuis un grenier. Comme les enfants, il n'accorda pas un regard aux deux femmes qui sortirent de l'allée, refermèrent la petite porte et s'engagèrent dans la ruelle avec l'assurance de gens qui ont tous les droits d'être là. Après qu'elles se furent acquittées de près de 5 lieues de marche à l'ouest de Sienda, Thomas et Julien rattrapèrent les deux femmes. Le trouvère conduisait une sorte de roulotte de Zingari. N'était sa couleur unique et sobre, un vert assez terne, qui s'écaillait d'ailleurs par larges plaques. Sans cacher son soulagement, Ninevé glissa ses baluchons sous le banc du conducteur et grimpa à côté de Tom. Voyant que Julien chevauchait rôdeur, elle marmonna.
« Je t'avais dit de ne pas retourner à l'auberge. »
Et si le bougre regardait Tom, cette fois, il lui en cuirait.
« Je n'y suis pas retourné, »
répondit le pisteur de voleurs, sans savoir s'il venait de s'épargner un sort funeste.
« J'ai dit au palefrenier en chef que madame désirait des baies fraîchement cueillies, et que nous étions chargés, Tom et moi, d'aller lui enquérir. C'est le genre de caprice que certaines... »
Julien s'interrompit, conscient qu'Elaine, assise de l'autre côté de Tom, le foudroyait du regard. Trop souvent, il oubliait qu'elle était pour de bon de sang royal.
« Il fallait bien donner une raison à notre départ, »
dit Tom en faisant claquer son fouet.
« Vous avez dû faire mine de vous retirer dans votre chambre au bord de la syncope. Dame Moréline, en tout cas. Mais les garçons d'écurie se seraient demandé pourquoi ils nous prenaient la fantaisie d'aller crever de chaud au lieu de rester bien au frais à paraisser dans une grange en buvant de la bière. Avec cette histoire de baie, nous ne sommes sans doute pas l'objet de toutes les conversations en ce moment même. »
Elaine foudroya le trouvère du regard, sans doute à cause de la syncope, mais il fit mine de ne pas s'en apercevoir. Ou peut-être ne le remarqua-t-il pas pour de bon. Quand ça les arrangeait, les hommes pouvaient être aveugles. Ninevé eut un grognement franc et massif. Ça, le gaillard ne pouvait pas passer à côté. De fait, il fit claquer son fouet avec un peu trop de vigueur. Toute cette histoire de bête est un prétexte pour emmener rôdeur, bien entendu. Histoire de pouvoir chevaucher à tour de rôle. Une autre habitude des hommes. Inventer des fadaises afin de pouvoir faire exactement ce qui leur chantait. Au moins, Elaine regardait le trouvère de travers, au lieu de le couver des yeux.
« J'ai appris autre chose cette nuit »,
annonça Tom après un moment.
« Pedron Nial essaie de fédérer les nations contre Rand. »«
Ne va pas croire que je doute de toi »,
dit Nineveh.
« Mais d'où tiens-tu cette information ? J'ai du mal à croire qu'un des fils de la lumière te l'ait obligeamment transmise. »
« Trop de gens disaient la même chose, Nineveh. Il y aurait un faux dragon à Théar. Un faux dragon, affirme-t-on, sans tenir compte des prophéties au sujet de la chute de la pierre et de Kalandor. L'imposteur est dangereux, dit-on, et les pays devraient s'unir comme à l'époque de la guerre des Aiel. Et bien sûr, quel meilleur chef pour ça que Pedron Nial ? Quand le peuple répète à l'infini une chose, c'est que cette idée vient d'en haut. Et en Amadicia, Aelrond lui-même ne se permet pas d'avoir une opinion sans en référer d'abord à Nial.
Le vieux Trouvert semblait toujours capable, ou presque, de faire la synthèse des rumeurs et des murmures qu'il glanait de ci de là. Mais il ne fallait pas perdre de vue que ce n'était pas un simple Trouvert en réalité. Quoi qu'il prétende, c'était un barde de cour, et il avait sûrement été témoin d'intrigues au moins aussi sophistiquées que celles de ses récits. Ayant été l'amant de Morgaz, il s'en était peut-être même mêlé. Du coin de l'œil, Nineveh étudia le vieil homme ridé aux sourcils broussailleux et à la longue moustache aussi blanche que ses cheveux. Les femmes avaient parfois de drôles de goûts, il fallait bien l'avouer.
« Nous ne devrions pas être surpris par des événements de ce genre, »
dit l'ancienne sage-dame. Pour sa part, elle ne les avait jamais anticipés, et c'était une grossière erreur.
« Ma mère soutiendra Rand, j'en suis sûr, »
dit Elaine.
« Elle connaît les prophéties, et elle est aussi influente que Pedron Nial. »
Secouant la tête, Tom s'inscrivit en faux contre cette dernière affirmation, au moins. Morgaz régnait sur une nation prospère, mais il y avait des capes blanches dans tous les pays, et les fils recrutaient des fanatiques de toutes les origines. Nineveh s'avisa soudain qu'elle allait devoir accorder plus de considération à Tom. Après tout, il en savait peut-être aussi long que ce qu'il prétendait.
« Veux-tu dire que nous aurions dû nous laisser escorter à Kemlin par Galad ?»
Elaine se pencha sur le banc pour foudroyer Nineveh du regard, par-delà l'obstacle que constituait Tom.
« Sûrement pas. Pour commencer, il est impossible de savoir si ce qu'il aurait décidé, au bout du compte. En plus... »
Elaine se redressa, disparaissant derrière le trouvert, et continua comme pour elle-même.
« En plus, si ma mère s'est retournée contre la tour, j'entends bien communiquer avec elle par lettre pour le moment. Parce qu'elle serait capable de nous garder de force au palais, si nous tombions entre ses mains. Pendant très bien, évidemment. Elle ne contrôle pas le pouvoir, c'est vrai. Mais avant d'être vraiment une Aes Sedai, je préfère ne pas me frotter à elle. Et même après, je n'y tiendrai pas trop.
« Une femme de tête, oui, » dit Tom. « Elle aurait au fait de t'apprendre les bonnes manières, Nineveh. »
N'ayant pas de natte sur laquelle tirer, Nineveh grogna de mécontentement, mais le vieux fou se contenta de lui sourire. Le soleil approchait de son zénith lorsque les fugitifs atteignirent la ménagerie, qui n'avait pas changé d'endroit depuis la veille. Sous la canicule, même les chaînes vénérables semblaient voûter un peu les épaules. À part les chevaux et les chevaux sangliers, tous les animaux étaient dans leur cage, et on ne voyait pas non plus l'ombre des artistes, sans doute réfugiés dans leur roulotte. Lorsque Nineveh et les autres furent descendus du véhicule, Valan Nuka daigna enfin se montrer, paradant toujours dans sa ridicule cape rouge. Cette fois, il ne tint pas de propos fleuris et ne fit pas d'effet de cape. Reconnaissant Tom et Julin, il étudia la roulotte, puis se pencha pour mieux voir les traits des deux femmes, cachés par leur bonnet, et eut un sourire glacial.
« On redescend sur terre, noble dame Moreline ? Où on y a toujours été. Auriez-vous volé un coche et de beaux atours ?
Eh bien, je n'aimerais pas voir un si joli front marqué au fer rouge.
C'est la punition, ici. Enfin, une des plus douces. Puisque vous avez été démasqué. Sinon, pourquoi seriez-vous en fuite ? Je ne saurais trop vous conseiller de filer. Et si vous escomptiez récupérer votre maudit sou, vous le trouverez sur la route. Parce que je voulais jeter dessus en même temps qu'une grosse pierre. Et pour moi, il peut rester là où il est, jusqu'à Tarmon Gaidon. Tu voulais un mécène ?
Lança Nineveh, alors que Lucas se détournait déjà.
Nous pouvons l'être pour toi.
Vous deux ?
Lucas s'arrêta.
Même si quelques pièces ne me feraient pas de mal, je n'accepterai pas d'argent volé.
Nous réglerons tous tes frais, maître Lucas.
Intervint Elaine, passant elle aussi au tutoiement.
Plus 100 couronnes d'or de prime, si nous pouvons t'accompagner jusqu'au Galdan. À condition que tu acceptes de ne pas t'arrêter avant la frontière. »
Nineveh grogna sa désapprobation. « 100 couronnes d'or. » 100 couronnes d'argent auraient largement suffi à payer les dépenses de la caravane, même si les chevaux sangliers mangeaient pour quatre.
« Votre butin est si élevé ?»
demanda Lucas, soupçonneux.
« Qui vous poursuit ? Je ne veux pas d'ennui avec les capes blanches ou l'armée régulière. Ces gens nous jetteraient en prison et abattraient les animaux.
C'est mon frère,
dit Elaine, avant que Nineveh se lance dans quelques tirades rageuses pour défendre leur probité.
Un mariage semble avoir été arrangé à mon absence, et il est chargé de me ramener. Mais je n'ai aucune intention de retourner à Kerienne pour épouser un type plus petit que moi, 3 fois plus gros, et je ne sais combien de fois plus âgé.
Elaine s'empourpra, une imitation de colère peu convaincante, estima Nineveh en experte.
Mon père rêve de revendiquer le trône du soleil, s'il rallie assez de nobles à sa cause.
En revanche, le ton était bien meilleur.
Moi, je rêve d'un bel Andorien roux que j'épouserai coûte que coûte, n'en déplaise à mon père. Maître Lucas, voilà tout ce que tu as besoin de savoir sur moi.
Tu dis peut-être la vérité,
fit Lucas.
Et peut-être pas. Montre-moi donc la couleur de l'argent que tu me promets. Avec des promesses, on ne se paie pas de coupe de vin.
Nineveh sortit de son sac la bourse la plus pensue, la secoua devant le nez de Lucas et la remit à sa place quand il tendit la main.
Tu auras ce qu'il te faut au fur et à mesure, et les 100 couronnes une fois atteint le Galdan.
100 couronnes d'or. Si Elaine continuait à ce rythme, il allait bientôt falloir trouver un banquier et utiliser les lettres de crédit remises par Siwan Sanche.
Que vous soyez ou non des voleurs,
grogna Luca.
Vous fuyez quelqu'un. Je ne risquerai pas de perdre ma troupe, qu'il s'agisse de l'armée ou d'un frère en colère. D'ailleurs, s'il croit que j'ai enlevé sa sœur, la deuxième possibilité sera pire pour moi. Vous allez devoir vous fondre dans la masse.
Il eut un rictus mauvais.
Tous ceux qui voyagent avec moi travaillent d'une façon ou d'une autre, et vous ne ferez pas exception à la règle. Si les autres savent que vous payez votre passage, ils en feront des gorges chaudes, et ce n'est pas ce que vous voulez. Le nettoyage des cages sera parfait. Les hommes de peine qui s'occupent des chevaux se plaignent de devoir le faire. En guise de paiement, j'essaierai même de retrouver ce fichu sou. Personne ne dira jamais que Valan Luka est pingre.
Alors qu'elle s'apprêtait à répondre qu'il n'était pas question de payer et de travailler, Nineveh sentit la main de Tom se poser sur son bras. Puis il se baissa, ramassa des cailloux et commença à jongler avec 6 d'entre eux.
« J'ai déjà des jongleurs, »
lâcha Luka. Les 6 cailloux en devinrent 8, puis 10, puis 12.
« Tu n'es pas trop mauvais. »
Ayant commencé par un seul cercle, Tom le dédoubla en plein vol.
« Oui, tu pourrais me rendre service. »«
Je sais aussi avaler du feu, »
dit Tom en lâchant les cailloux.
« Et le lancer de couteau n'a pas de secret pour moi. »
Il montra ses paumes vides, puis tira un caillou de derrière l'oreille de Luca.
« Et j'ai d'autres talents. »«
Pour toi, ce sera parfait. Mais les autres ?»
Luca se rembrunit, comme s'il s'en voulait d'avoir montré un certain enthousiasme face aux performances de Tom.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Elaine en désignant les 2 poteaux que Nineveh avait remarqués la veille. À présent, une plateforme était fixée en haut de chacun, et un filin très tendu les reliait.
« L'appareil de Cédrine, »
répondit Luca.
Cédrine le funambule, le crétin qui faisait l'acrobate à 30 pieds du sol.
Je peux marcher sur ce fil,
assura Elaine. La voyant retirer son bonnet et partir d'un pas décidé, Tom voulut la retenir, mais elle le dissuada d'un sourire. En revanche, Luca lui barra le chemin.
Dis donc, Moreline, ou quel que soit ton nom, vas-tu m'écouter? Si ton front est trop joli pour être marqué au fer, ton cou me paraît aussi trop beau pour se briser comme une brindille. Cédrine était un sacré expert. Et ses funérailles ne sont pas terminées depuis 1 heure. C'est pour ça qu'il n'y a personne dehors. C'est vrai, il a trop bu hier, après qu'on nous eut chassés de Sienda. Mais je l'ai vu faire son numéro ivre-mort. Bon, tu n'auras pas besoin de nettoyer les cages. Tu viendras dans ma roulotte et nous dirons que tu es ma petite amie. Pour du beurre, bien entendu.
D'après le sourire qu'il arborait, ce gaillard espérait que ça ne resterait pas longtemps pour du beurre. Elaine le gratifia d'un regard qui aurait pu faire geler le soleil.
Merci de ta proposition, maître Luca. Et si tu veux bien t'écarter?
Le patron de la ménagerie fut obligé d'obtempérer. Sinon, Elaine aurait volontiers piétiné. Julien froissa entre ses pognes son ridicule chapeau, puis le vissa sur son crâne en regardant Elaine, un peu gênée par sa jupe, gravir l'échelle de corde qui donnait accès à la plateforme du plateau le plus proche. Nineveh comprit ce que la fille héritière entendait faire. Les 2 hommes auraient dû également saisir, Tom en tout cas. Pourtant, il semblait toujours prêt à bondir pour attraper la jeune femme si elle tombait. Luca approcha des poteaux, comme si la même idée venait de lui traverser la tête. Un moment, Elaine resta sur la plateforme. Avec quelqu'un dessus, celle-ci semblait beaucoup plus petite, lissant ses vêtements. Puis elle releva sa jupe, comme si elle allait traverser une flaque de boue, et s'engagea sur le filin. On eût dit qu'elle avançait dans une avenue. Et en un sens, c'était le cas.
Même s'elle ne voyait pas l'aura du Saïdar, Nineveh savait pertinemment que la fille héritière avait tissé un passage entre les deux poteaux, un flux d'air pour l'occasion aussi dur que de la pierre. Sans crier gare, Elaine posa les mains sur le filin et exécuta deux roues complètes à la suite, sa jupe se déployant comme la corolle d'une fleur et dévoilant ses jambes heureusement gainées de bas. Un instant, alors qu'elle se rétablissait, l'ourlet de sa jupe sembla frôler une surface plane, juste avant qu'elle le soulève de nouveau.
« Maître Cédrine faisait-il ça ?»
demanda Elaine à Luca.
« Oui, et même mieux !»
Luca baissa le ton.
« Mais il n'avait pas des jambes pareilles. »«
Je ne suis pas la seule à avoir ce talent !»
dit Elaine.
« Julien est... »
Nineveh secoua frénétiquement la tête. Tissage d'air ou pas, elle avait le vertige, en plus de souffrir du mal de mer.
« Julien et moi, nous sommes excellents en équipe. Julien, rejoins-moi !»
Le pisteur de voleurs semblait plutôt avoir envie de nettoyer les cages, celles des lions, avec les fauves à l'intérieur. Pourtant, il ferma les yeux, récita une prière muette, puis entreprit de gravir l'échelle, avec l'enthousiasme d'un condamné qui monte sur l'échafaud. Arrivé en haut, il regarda Elaine, puis le filin, hésita un instant et se lança, avançant très vite, les bras tendus et sans cesser de prier. La fille héritière s'écarta à demi de la plateforme d'en face pour lui laisser de la place, puis elle l'aida à retourner sur le plancher des vaches en descendant la seconde échelle. Quand elle vint reprendre le bonnet qu'elle avait confié à Nineveh, Tom sourit fièrement à la jeune femme. Ruisselant de sueur, Julien avait l'air de sortir du bain.
« C'était excellent !»
fit Luca en se grattant le menton.
« Pas aussi bon que Cédrine, mais très bon quand même. J'ai aimé ton aisance, Moreline, alors que Julien, c'est bien ton nom, mon gars, faisait semblant d'être mort de peur. Votre numéro devrait faire fureur. »
Julien fit un sourire assassin au bonimenteur de foire. Jouant de sa cape, Luca se tourna vers Nineveh.
Et toi, chère nana, quel talent caché as-tu? L'acrobatie? Avaler des sabres?
Moi, je distribue l'argent,
répondit l'ancienne sage-dame en tapotant son sac.
Où entendrais-tu me proposer une place dans ta roulotte?
Glacé par le sourire de prédatrice de nana, Luca cessa de faire le joli cœur et recula d'un pas. Attiré par les cris, des gens sortirent des roulottes et se massèrent autour des nouveaux venus, tandis que Luca faisait les présentations. Les hommes de peine, comme les appelait Luca, indiquant ainsi qu'ils n'avaient aucun talent artistique, se révélèrent peu communicatifs et assez négligés de leur personne, peut-être parce qu'ils touchaient des gages de misère. Relativement au nombre de véhicules, ils étaient assez peu nombreux, tout simplement parce que chacun mettait la main à la pâte, y compris quand il s'agissait de conduire les chariots et les roulottes. Dans une ménagerie itinérante, même comme celle-là, l'argent ne coulait jamais à flot. Petra, l'homme fort, était le type le plus impressionnant que Nineveh eût jamais vu. Pas en hauteur, mais en largeur, et son gilet de cuir laissait voir des bras presque aussi gros que des troncs d'arbres. Il était l'époux de Clarine, la dresseuse de chiens au teint mat et aux formes rondelettes. À côté de lui, elle paraissait presque frêle, bien entendu. La montreuse d'ours, la Telle, était une brune aux yeux sombres qui semblait toujours sur le point de ricaner. Aloudra, une mince jeune femme, était censée être une illuminatrice, et au fond, pourquoi pas? Si elle ne portait pas ses cheveux tressés à la mode du Tarabone, rien d'étonnant vu l'hostilité envers ce pays qui régnait en Amadicia, elle avait le bon accent, et qui pouvait dire ce qu'il était advenu de la guilde des illuminateurs? Car leur salle capitulaire, à Tanchico, avait certainement dû fermer ses portes. Prétendant être tous des frères nommés Chavana, les acrobates s'avéraient cependant très différents les uns des autres. N'était la petite taille et la minceur athlétique. De taille rique aux yeux verts, ses pommettes hautes et son nez crochu typique du Saldaïa, à Barit, plus noir de peau que Julien, il arborait sur les mains des tatouages du peuple de la mer, sans porter pour autant des boucles d'oreilles ou un anneau dans le nez, presque tous les types physiques connus étaient représentés. À l'exception de la Telle, tous les artistes accueillirent chaleureusement leurs nouveaux collègues. Plus de numéros signifiaient davantage de spectateurs, et donc une augmentation des recettes. Barry et Keen, les deux jongleurs, d'authentiques frères, eux, s'engagèrent dans une grande conversation avec Tom dès qu'ils eurent découvert qu'ils ne travaillaient pas de la même façon qu'eux. Solidarité ou non, la compétition reprenait toujours ses droits. Dans tout ce petit monde, Nineveh fut tout de suite intéressée par la femme aux cheveux clairs qui s'occupait des chevaux sangliers. Nommée Serandine, elle se tenait à l'écart et n'ouvrait presque pas la bouche. Selon Luca, elle venait de Chara, comme les animaux. Mais sa façon de parler très particulière, pour les quelques mots qu'elle lâcha, donna une toute autre idée à l'ancienne sage-dame. Il fallut un peu de temps pour trouver une place à la roulotte des nouveaux venus. Malgré la mauvaise volonté qui mirent les hommes de peine,
Tom et Julien furent ravis de recevoir un peu d'aide pour l'attelage. Pendant ce temps, Elaine et Ninevé reçurent une série d'invitations. Petra et Clarine les convièrent à venir boire une infusion, une fois qu'elles seraient installées, et les Chavana, comme Kin et Barry, les invitèrent à dîner. Tout ça sous le regard mauvais de Latel, bien entendu. Les deux femmes déclinèrent ces propositions avec grâce. Surtout Elaine, faut-il avouer. Toujours furieuse d'avoir regardé Galad avec des yeux de merlan frit, Ninevé n'avait guère envie de se montrer courtoise avec quiconque, et surtout pas des hommes. Alors que Ninevé s'était éloigné, Luca vint présenter sa propre invitation à Elaine. Il repartit en se frottant la joue, et sur son passage, Tom fit quelques tours de passe-passe avec ses couteaux, histoire de bien mettre les points sur les i. Laissant la fille héritière ranger ses affaires dans la roulotte, les y jeter en marmonnant entre ses dents plutôt, Ninevé gagna l'endroit où étaient entravés les chevaux sangliers. À voir comme ça, il semblait inoffensif. Mais le souvenir du trou dans la façade d'une auberge incita l'ancienne sage-dame à se méfier, d'autant plus que la corde qui les retenait ne semblait pas si solide que ça. Sérandine était en train de bouchonner le plus grand mâle avec son aiguillon terminé par un crochet.
« Quel est leur véritable nom ?»
demanda Ninevé. Non sans hésiter, elle caressa le long nez, ou museau, du mâle, dont les défenses de 9 pieds de long étaient au minimum aussi grosses que ses jambes, celles des femelles n'ayant pas grand-chose à leur envier. Le monstre flanqua un gentil coup de museau dans la jupe de Ninevé, qui recula d'instinct.
« Ce sont des Sredites, »
répondit Sérandine.
« Mais Maître Luca a préféré un nom plus évocateur. »
Cet accent traînant était effectivement reconnaissable entre 1000.
« Il y en a beaucoup au Seanchan ?»
Sérandine cessa un instant de gratter la peau du mâle.
« Le Seanchan ? Où est-ce ? Les Sredites viennent de Shara, comme moi. Et je n'ai jamais entendu. Je veux bien croire que tu connais Shara, même si j'en doute. En revanche, tu es une Seanchanienne. » J'en mets ma main au feu. Après avoir participé à l'invasion de la pointe d'Ottomane, tu as été laissé en arrière à Falm, je parie. C'est une certitude,
dit Elaine en approchant.
À Falm, nous avons entendu ton accent, Sérandine. Ne t'en fais pas, nous ne te voulons pas de mal.
Une affirmation que Ninevé n'aurait pas reprise à son compte, car elle gardait un très mauvais souvenir des Seanchaniens. Pourtant,
une Seanchanienne t'a aidé quand tu étais en mauvaise posture. Tous ne sont pas mauvais, juste l'écrasante majorité.
Sérandine soupira et tituba un peu, comme si un poids dont elle n'avait plus conscience venait de se lever de ses épaules.
« J'ai rencontré très peu de gens qui savaient ne serait-ce qu'une once de vérité sur le retour ou sur les événements de Falm. J'ai entendu des centaines d'histoires, toutes plus fausses les unes que les autres. Et ça ne me gênait pas. J'ai bien été laissé en arrière, comme beaucoup de Sredites. Mais je n'ai pu rassembler que ces trois-là. J'ignore ce qui est arrivé aux autres. Le mâle se nomme Mère. La femelle Sanit, et la petite Nérin. Mais elle n'est pas à Sanit. C'était ça ton travail ?
Demanda Elaine.
Dresser des Sredites ? Ou étais-tu une Souldame ?
Demanda Ninevé avant que Sérandine ait pu répondre.
Non, pas une Souldame. On m'a mise à l'épreuve comme toutes les filles. Mais je n'étais bonne à rien avec un Adam. J'ai été fière qu'on me choisisse pour travailler avec les Sredites. Ce sont des animaux magnifiques. Mais vous en savez long sur nous. Je n'avais jamais rencontré des gens informés au sujet des Souldames et des Damanes.
Sérandine ne semblait pas le moins du monde effrayée. Peut-être parce qu'elle avait épuisé ses réserves de peur depuis qu'on l'avait abandonnée en terre étrangère. Ou parce qu'elle mentait sur toute la ligne. Au sujet des femmes capables de canaliser, les Seanchaniens n'étaient pas mieux que les Amadiciens, voire encore pire. Ils n'exilaient ni ne tuaient ces femmes, préférant les capturer et les utiliser. Par l'intermédiaire d'un artefact nommé un Adam, Ninevé aurait parié que c'était une sorte de terre angréal, la Souldame était en mesure de contrôler la Damane, celle qui canalisait le pouvoir, la forçant à faire tout ce qu'elle voulait, y compris lui servir d'arme. Au fond, même si on la traitait un peu mieux, une Damane avait un statut très comparable à celui d'une bête de somme. Et toutes les filles en mesure de manier le pouvoir, y compris celles qui n'avaient qu'une étincelle de don, étaient ainsi réduites en esclavage. En quête de cobayes, les Seanchaniens avaient écumé la pointe d'Ottomane avec 10 fois plus d'efficacité que la Tour Blanche. La simple mention des Souldames, des Damanes et des Adams retournait l'estomac de Ninevé.
« Nous ne savons pas grand-chose, »
dit-elle à Sérandine.
« Mais nous sommes avides d'apprendre. »
Rand avait repoussé les Seanchaniens, mais ça ne voulait pas dire qu'ils ne reviendraient jamais. Par rapport aux autres menaces, celle-ci pouvait paraître mineure. Mais avoir une épine dans le pied ne garantissait en rien qu'une égratignure de ronces sur le bras ne finirait pas par s'infecter.
« Tu serais bien inspiré de répondre franchement à nos questions. Je te promets qu'il ne t'arrivera rien, »
ajouta Elaine.
« S'il le faut, je te protégerai. »
La Seanchanienne regarda ses deux interlocutrices, puis sans crier gare, elle se jeta aux pieds de la fille héritière.
« Tu es une haute dame de ce continent, exactement comme tu l'as dit à Luca. Pardonne-moi d'en avoir pris conscience si tard. Bien entendu, je me soumets à toi. »
Sur ces mots, Sérandine baisa le sol, devant le bout des chaussures d'Elaine, dont les yeux manquèrent jaillir de leurs orbites. Ninevé aurait parié qu'elle avait l'air au moins aussi stupéfaite que sa compagne.
« Debout !»
siffla-t-elle en regardant autour d'elle pour voir si on les observait. Ce maudit Luca et cette fichue Latelle n'avaient pas perdu une miette de la scène. C'était regrettable, mais qu'y faire ?«
Debout, bon sang !»
La Séane Chanienne ne broncha pas.
« Lève-toi, Sérandine !»
dit Elaine.
« Chez nous, personne n'exige qu'on se comporte ainsi, même devant une tête couronnée. »
Alors que la femme se redressait, elle ajouta.
« En échange de tes informations, je t'apprendrai à te comporter comme il convient. »
Sérandine s'inclina bien bas.
« Oui, haute dame, comme tu voudras. Je suis ton humble servante. »
Ninevé soupira à Pierre Fendre. Le voyage jusqu'au Géaldan promettait d'être pénible.